Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Cette semaine, Matière à penser s'est intéressée aux grands espoirs de la médecine. Et tout particulièrement, ce soir, la transplantation cardiaque virtuelle, c'est-à-dire en faux, comment changer le cœur sans transplanter. Voilà, on va venir en parler avec Philippe Ménaché, qui est chirurgien cardiaque à l'hôpital européen de Georges Pompidou et qui a une expérience double de ses mains et de sa tête, j'ai envie de dire, puisqu'il est chirurgien cardiaque, mais surtout qu'il développe dans une unité de recherche depuis déjà un certain temps la possibilité, grâce aux cellules souches cardiaques, de modifier donc certaines pathologies de cet organe. Philippe Ménaché, merci d'être là.
Merci d'avoir invité.
Nous nous connaissons puisque nous nous sommes déjà rencontrés à France Culture et puis par ailleurs, bien entendu, puisque nous avons, autour de ces thématiques, non seulement appris les uns les autres les nouveautés scientifiques, mais aussi des réflexions communes sur le plan éthique, en particulier à partir des cellules souches sur lesquelles nous discuterons tout à l'heure. Vous êtes donc dans le département de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital européen Georges Pompidou. Vous continuez à opérer dardard, on va dire. Et vous êtes directeur de l'unité INSERM 633 jusqu'en 2013, puis co-directeur d'une autre unité, thérapie régénérative des pathologies cardiaques et vasculaires. Alors vous avez un titre, vous avez énormément de positions de prix scientifiques, d'activités d'intérêt général, de sociétés savantes, d'activités éditoriales. Vous dormez un peu de temps en temps ?
Oui, très bien.
Bon, parfait, c'est encore mieux. Et qu'est-ce qui vous a guidé vers le cardiaque et en particulier la chirurgie d'ailleurs ?
C'est très difficile de répondre parce que c'est venu d'une manière naturelle, en ce sens que, honnêtement, j'ai jamais réellement imaginé faire autre chose.
Ça, c'est bien. Mais cardiaque. Parce que médecin, déjà.
Cardiaque. Chirurgie et très vite chirurgie cardiaque.
Qui est-ce qui vous a pris sous le...
La lecture d'un petit que sais-je, écrit par Claude Dallaine, qui était un chirurgien cardiaque de l'équipe du professeur Charles Dubost à Brousset. Donc, j'avais dévoré ce petit que sais-je sur l'histoire de la chirurgie cardiaque. Et très honnêtement, je m'étais dit, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je vais faire. Et j'étais au lycée. Et c'est ça que j'ai fait.
Mais ce n'est pas le côté transplantation cardiaque qui vous a véritablement stimulé au moment où il y a eu les premiers cas et tout ça ?
Non, honnêtement non, parce que la première transplantation cardiaque, c'est quasiment le moment où moi je commence mes études de médecine. Donc...
Oui, mais ça aurait pu être un modèle en disant « je vais y aller ».
Non, je n'étais pas plus fasciné par la transplantation cardiaque à l'époque que par les autres gestes valvulaires ou coronaires de cette chirurgie. Mais la lecture de ce livre, l'histoire de la chirurgie cardiaque, est une discipline récente qui a beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, qui continue à évoluer, est quelque chose qui m'avait réellement fasciné et... J'avais une fois de plus pas envisagé de faire autre chose.
Alors, il y a évidemment dans les pathologies cardiaques, il y a tout ce qui est réparation, tout ce qui est substitution. Ouais. C'est un côté mécanistique extrêmement fin, extrêmement important dans le matériau et je veux dire de changer les valves, d'intervenir d'abord et d'arrêter la circulation avec la circulation extracorporelle, ce qui est quand même assez impressionnant, surtout à la reprise, quand on remet tout en marche et que le cœur se remet à battre. Mais vous avez voulu aborder les choses d'une façon plus physiologique. Vous avez dit plutôt que le côté mécanique, qui reste toujours, l'art du chirurgien, vous avez pensé assez tôt à changer la physiologie du muscle lui-même, c'est-à-dire du muscle déficient, en particulier dans les insuffisances cardiaques. Mmh. Alors, dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est que l'insuffisance cardiaque ? Il y en a plus, il y en a moins. Comment ça se passe dans la vraie vie ?
L'insuffisance cardiaque, au fond, la définition est dans les deux mots. C'est l'incapacité du cœur d'assumer correctement sa fonction de pompe, c'est-à-dire d'envoyer vers le cerveau, les reins, le foie, la quantité de sang nécessaire pour que ces organes fonctionnent correctement. Et cette incapacité d'assumer la fonction pompe, elle est due au fait qu'un certain nombre de cellules contractiles sont mortes pour des raisons diverses, très souvent pour des raisons qu'on appelle ischémiques, c'est-à-dire après un infarctus du myocarde.
C'est-à-dire qu'elles sont plus vascularisées.
Une des artères du cœur s'est bouchée. S'est bouchée, donc il y a un territoire qui n'est plus vascularisé, qui est mort, et donc il y a, pour vous donner un ordre de grandeur, dans un infarctus étendu, à peu près 1 milliard de cellules cardiaques contractiles qui sont mortes. Et par conséquent, il y a une amputation correspondante de la fonction pompe. C'est ça, l'insuffisance cardiaque.
Et normalement, les cellules de cet organe se renouvellent ?
Non. C'est le problème. Il y a un renouvellement, mais il est extrêmement faible. Il diminue d'ailleurs au fur et à mesure que l'on avance en âge. Et en tout cas, ce renouvellement est totalement, totalement insuffisant pour permettre justement le remplacement de cette masse considérable de cellules qui ont été détruites. Sinon, finalement, il n'y aurait pas d'insuffisance cardiaque. Donc, ces capacités de régénération spontanée, naturelle, elles sont extrêmement limitées chez l'adulte.
Et pourtant, on a réussi donc à cultiver des cellules cardiaques, puisque le cœur, finalement, comme tous les organes qui nous caractérisent, provient de cellules souches, c'est-à-dire au niveau de l'embryon, où il y a un amas cellulaire de cellules qui vont se différencier au fil du temps. Certaines vont donner la peau, les os, les yeux, enfin tout ce qu'on veut, le cerveau, et d'autres vont donner le muscle cardiaque. Alors, parfois, c'est pas toujours dans la bonne direction. Je veux dire qu'il y a des malformations cardiaques au cours de la genèse. Et puis des fois, ce sont des altérations au cours de vie, du genre athérome, dépôt de plaques, maladies infectieuses, et puis autres éléments qui viennent empêcher ce fonctionnement. Mais incontestablement, le message que vous donnez là, enfin depuis longtemps, c'est que c'est donné une fois pour toutes. C'est-à-dire que le muscle cardiaque se constitue, bien ou mal, s'il y a des malformations, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Et je veux dire après, il a une programmation de vie en dehors des accidents de combien de temps ?
Il a la programmation de vie de la vie de l'individu. Ce qu'il y a, c'est que pour reprendre ce que vous venez de dire, au cours de la vie embryonnaire, effectivement, les cellules qui sont au départ pluripotentes, qui donnent naissance à tous les organes du corps, vont entre autres donner naissance au cœur. Et là, il y a des mécanismes qui sont en jeu, qui sont des mécanismes de prolifération. Les cellules prolifèrent, elles se différencient. Et puis, quelques semaines, à peu près, quelques mois, au maximum, après la naissance, ces mécanismes qui sont responsables et de la prolifération des cellules cardiaques et de leur différenciation, parce qu'elles sont tout de même assez spécialisées, ces cellules cardiaques.
Je veux dire, à l'intérieur des cellules cardiaques, il y en a qui vont avoir des rôles différents ?
Oui. Ces phénomènes vont s'arrêter, je le répète, quelques semaines ou quelques mois après la naissance. Et l'un des enjeux de la thérapie cellulaire aujourd'hui, c'est justement d'essayer de réveiller ces mécanismes qui existaient et qui existent sans doute à l'état latent, de manière à leur permettre précisément de redonner naissance à de nouvelles cellules cardiaques pour remplacer celles qui sont mortes. Donc on a beaucoup appris de la biologie du développement et l'un des enjeux majeurs, c'est véritablement de réactiver des processus dont on sait qu'ils peuvent donner naissance à des cellules cardiaques, mais qui se sont arrêtées.
Et là, on a pu identifier ces... parce que chez nous, c'est la même chose en gynéco. On se dit, mais l'ovaire s'arrête de fonctionner au bout d'un certain temps. Mais est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'ovaire... Normalement, c'est donné une fois pour toutes. Les ovules, c'est dès la naissance de la petite fille, puis ça bouge plus. Mais est-ce qu'il y a des cellules souches qui ont existé pendant un temps, mais qui se sont arrêtées ? Est-ce qu'on pourrait aussi les faire redémarrer et prolonger des cas, on va dire, de ménopause précoce qui surviennent beaucoup trop tôt ? Donc, chez vous, dans votre spécialité, Philippe Ménaché, vous pensez qu'il y a des cellules souches dormantes, en un mot ?
Je ne le pense pas. C'est quelque chose qui est établi. Il y a plusieurs voies de signalisation, plusieurs mécanismes qui ont été identifiés et dont on sait qu'ils permettent, donc, je le répète, à la fois la prolifération et la spécialisation des cellules cardiaques qui sont arrêtées rapidement après la naissance. Pas dans toutes les espèces d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il y a des espèces. Le poisson zèbre, vous lui coupez le tiers de son cœur, il régénère, lui, quel que soit son âge. Bon. Mais on n'est pas des poissons zèbres. Chez l'homme, donc, ces phénomènes se sont arrêtés et l'objectif, c'est précisément de permettre à la fois de les réactiver, mais de les réactiver d'une manière contrôlée. Il ne faut pas non plus que ces cellules se mettent à proliférer de façon incontrôlée, définitive et anarchique.
Ça, c'est un enjeu difficile. Aux poissons zèbres et à d'autres animaux, je dirais que lorsque l'on coupe un membre ou une partie, se mettent à régénérer, c'est qu'il y a bien un mécanisme qui existe, puisqu'on le constate. Et il y a des recherches qui se font sur la compréhension de ce mécanisme qui pourrait, à la limite, être appliqué
en permanence. Et ce sont les recherches, entre autres, menées sur le poisson zèbre ou sur d'autres espèces animales qui ont des capacités spontanées de régénération, qui ont permis d'identifier chez l'homme les mécanismes qui sont en jeu et qui, je le répète, se sont à un moment donné arrêtés. L'objectif étant de permettre à ces mécanismes de retrouver une certaine activité pour précisément compenser la perte de cellules qui se produit au cours de la vie à l'occasion d'une maladie quelconque.
Alors, il y a quelques années, les gens de votre équipe avaient montré ces fameuses cellules souches qui étaient en culture et puis qui, à un moment donné, puisque ce n'est pas immédiat, à un moment donné, se mettent à se contracter. On le voit très bien dans les films. Ce qui est assez émotionnant, bien sûr, de voir des cellules qui sont quiescentes, sont au repos, et puis d'un seul coup, elles se mettent à, de façon synchrone d'ailleurs, c'est mieux, elles se mettent à se contracter. On dirait que la baguette magique du professeur Ménaché est tombée dessus, ou je sais pas quoi. Mais en tous les cas, on a ce phénomène des cellules au tout début. Et là, vous pensez donc qu'on pourrait refaire peut-être ce mécanisme. C'est un peu général, votre expression, parce que peut-être il manque encore des identifications. Je veux dire par là que de retrouver véritablement l'existence de ces précurseurs de cellules souches et de pouvoir leur donner l'impact du développement.
Oui, le but aujourd'hui, c'est d'utiliser les cellules, et en particulier des cellules cardiaques, comme celles que vous décrivez, c'est-à-dire des cellules cardiaques qui sont dérivées de cellules souches embryonnaires, de les utiliser comme usine, micro-usine, capable de libérer de multiples facteurs, de multiples substances, de multiples facteurs de croissance, qui vont précisément cibler les mécanismes en question à l'origine de la régénération du cœur. Ces mécanismes de régénération donc se sont arrêtés à un moment donné, et les cellules que nous greffons ont pour objectif principal de réactiver ces mécanismes en libérant, je le répète, en se comportant comme des micro-usines à médicaments, en libérant des molécules qui vont pouvoir donc cibler ces voies de régénération endogène et les réactiver. C'est ça l'enjeu actuel.
Comment se présente un insuffisant cardiaque ? Il y a sûrement plusieurs milliers de tableaux, mais ça arrive combien de fois dans une population, ça se manifeste à quel âge, et comment vous faites le diagnostic ?
Alors, c'est une maladie dont la prévalence augmente, entre autres à cause du vieillissement de la population. Alors, toujours difficile d'être certain des chiffres en épidémiologie, mais enfin, on estimait il y a quelques années, en tout cas en France, qu'il y avait 120 000 nouveaux insuffisants cardiaques par an. Et que sur ces 120 000 insuffisants cardiaques, il y en avait à peu près 10% qui étaient des insuffisants cardiaques graves, c'est-à-dire chez lesquels les médicaments classiques ne marchent pas ou ne marchent plus. Alors c'est important parce que, pour reprendre le titre de tout à l'heure, qui est la transplantation cardiaque virtuelle, il y a donc à peu près 10 000 nouvelles formes graves chaque année, et il y a 400 transplantations cardiaques. Donc on voit tout de suite le fossé. Je ne pense pas que la thérapie cellulaire se substituera un jour à la transplantation cardiaque conventionnelle, qui s'adresse à des formes qui sont vraiment graves et pour lesquelles il est assez peu probable que des cellules, quelles qu'elles soient, puissent avoir un vrai effet thérapeutique. En revanche, à la mesure où il n'y a que 400 transplantations cardiaques et 10 000 nouvelles formes d'insuffisance cardiaque, on voit qu'il y a de la place pour d'autres traitements, dont les cellules souches.
Peut-être pas au même temps aussi, peut-être.
Alors justement, ce n'est pas nécessairement le même stade évolutif de la maladie, et la thérapie cellulaire va nécessairement s'adresser à des formes moins graves et moins évoluées que celles qui conduisent à la transplantation cardiaque. Alors, pour reprendre la question, comment ça se présente ? Ça se présente comme des patients qui sont avant tout essoufflés à l'effort, au moindre effort, qui sont fatigués, qui ont du mal à marcher, et qui ont les chevilles qui enflent, et qui parfois ont un ventre également qui va gonfler parce que de l'eau s'y met, le cœur étant incapable de faire face à la charge volumique, de volume, et de l'expulser correctement à chaque battement. Donc ce sont des maladies qui sont invalidantes, fonctionnellement très invalidantes, très pénibles. Je rappelle toujours que la première malade à qui j'ai greffé des cellules cardiaques embryonnaires, la veille de sa chirurgie, elle dormait dans un fauteuil. Elle ne pouvait plus dormir allongée, mais dans un fauteuil. Et donc notre
médecin. Et après ?
Ben là, maintenant, elle trottine. Mais bon, on ne va pas tirer de conclusion à partir d'un cas isolé, d'autant qu'en plus, je lui ai fait
un pontage coronaire. Oui, on va parler de l'expérimentation après, bien sûr.
Ça, il faut rester très modeste de ce point de vue-là. Mais c'est une pathologie invalidante. Et il faut bien voir que le but de la thérapie cellulaire, ce n'est pas de redonner à ces malades des cœurs normaux qu'ils n'auront plus. Le but, c'est de leur donner la petite amélioration, parce qu'il y a des effets de seuil. Une petite amélioration peut suffire tout simplement pour dormir à nouveau allongé. Ben, c'est déjà un progrès en termes de qualité de vie. Peut leur permettre à nouveau de faire le tour du pâté de maison alors qu'ils ne sortaient plus de chez eux. Donc les ambitions sont modestes, mais je le répète, il y a des effets de seuil et une amélioration même objective, limitée, peut vraiment se traduire par un réel bénéfice en termes de qualité de vie.
Alors, voilà, devant donc un diagnostic qui est fait, et vous allez évoquer donc les nouvelles thérapeutiques. Enfin, il y a les médicaments. Vous avez
il y a les médicaments
qui permettent quoi au cœur de se contracter.
Oui, les médicaments sont efficaces dans un certain nombre de cas. Il faut quand même bien voir que par rapport au nombre considérable d'essais de nouveaux médicaments qu'il y a eu au cours des 15 dernières années, aucun, sauf peut-être un, ne s'est imposé comme étant véritablement révolutionnaire. Donc, on en est quand même toujours à des traitements médicaux assez conventionnels. Hein. Qui heureusement marche chez un certain nombre de patients, malheureusement, il y a aussi des malades qui échappent à ces traitements. Il n'y a pas eu de révolution en matière de médicaments, ça qu'il faut bien voir, et Dieu sait qu'il y a eu des nombreux essais et des millions et des millions d'euros et de dollars consacrés au développement de ces molécules et ensuite à leur évaluation. Mais globalement, ça a été assez décevant, d'où l'intérêt actuel, justement, porté à ces biothérapies, que ce soit d'ailleurs de la thérapie génique pour certains ou de la thérapie cellulaire, qui apparaissent comme des options conceptuellement différentes du médicament classique et qui sont porteuses d'espoir.
Schématiquement, thérapie génique pour le cœur et thérapie cellulaire pour le cœur, c'est quoi ?
Thérapie génique, c'est par exemple l'administration d'un gène qui va aller cibler une protéine donnée, disons une protéine intervenant dans la contraction cardiaque, de manière à ce que le niveau d'expression de cette protéine contractile augmente dans le cœur et lui permette de mieux pomper le sang, ce qu'il a à faire. Thérapie cellulaire, c'est l'utilisation, donc, comme je disais, de cellules, non pas d'ailleurs, comme on le croyait au début, avec l'idée sans doute un peu naïve que les cellules vont rester là et qu'elles vont faire un nouveau tissu cardiaque, ça on n'y croit plus beaucoup, mais qu'elles vont, par le biais de ce qu'elles sécrètent, et on sait très bien qu'elles sécrètent non pas des dizaines, non pas des centaines, mais des milliers de substances, de biomolécules. Donc, ces cellules vont, par le biais de ce qu'elles sécrètent, du moins c'est ce qu'on espère, et c'est ce qui semble être le cas, réactiver les mécanismes dont nous parlions tout à l'heure, qui sont des mécanismes quiescents, latents, hein, mécanismes qui se sont arrêtés après la naissance, mais qui, si on les réactive, sont capables de permettre une certaine amélioration de la fonction cardiaque, entre autres, parce que de nouvelles cellules cardiaques peuvent peut-être apparaître.
Mais vous avez dit tout à l'heure que les cellules, même jeunes, même embryonnaires, ne restent pas forcément dans l'organisme, dans le cœur, qu'elles disparaissent et que donc l'effet peut être que momentané. Est-ce que c'est pas la même chose pour cette sécrétion des cellules ?
C'est un vrai problème qui conduit aujourd'hui à explorer la voie d'administration itérative. Il est vraisemblable que si on veut un effet thérapeutique soutenu, il est nécessaire ou il sera nécessaire de répéter les administrations de ces cellules ou des facteurs dérivés des cellules, un petit peu comme on prend un comprimé tous les jours ou trois fois par semaine. Ce qui pose le problème de la voie d'administration.
Mais oui, c'est la question que j'allais vous poser.
La tendance actuelle.
Parce que initialement, vous vouliez amener les cellules sur le lieu.
Ouais.
Voilà. Et aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, on souhaite toujours qu'elles arrivent sur le lieu, mais on peut peut-être y arriver par des méthodes moins invasives. On ne peut pas naturellement opérer quelqu'un tous les trois mois pour lui injecter des cellules. Et donc, il y a un courant de recherche extrêmement important, auquel on participe d'ailleurs, pour essayer de diminuer le caractère agressif de l'approche, peut-être tout simplement par l'utilisation de la voie intraveineuse.
Mais je vois que vous faites beaucoup de rêves qui se réalisent pour la plupart. Et
pas tous, pas tous.
Non, mais on va écouter en tous les cas une chanson « I have a dream » et ça va nous permettre d'en constituer quelques autres.
If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels when I know the time is right for me. I'll cross the stream, I have a dream. I have a dream.
I have a dream, Abba, voilà, de quoi fermer les yeux et penser à des belles choses. Et parmi les belles choses en médecine, en tous les cas, avec Philippe Ménaché, nous sommes dans le cadre de la transplantation cardiaque virtuelle. On va expliquer, bien sûr, ce mot, mais tout ça pour dire que, en dehors des médicaments qui ont été donnés pour les maladies cardiaques, en dehors des progrès de la chirurgie, de la transplantation, à toutes les réparations des malformations, qu'elles soient de naissance ou qu'elles soient acquises, il y a actuellement un champ qui se développe et que mène avec son équipe Philippe Ménaché, qui est à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est extrêmement intéressante, qui est celle d'essayer de redonner une certaine jeunesse ou de transformer, de transplanter donc les cellules en apportant des nouvelles, ou plutôt leur produit, hein, ce qu'on appelle le sécrétome. C'est-à-dire que si vous laissez des cellules dans un milieu de culture, bah évidemment elles prennent, elles rejettent, donc elles ont autour d'elles un tas de produits qui peuvent avoir qui ont une efficacité extrêmement importante. Alors ça a été tout un débat, cette histoire de cellules embryonnaires, parce que il y avait deux solutions. Ou bien on les prenait à partir de véritables embryons humains constitués, en particulier par notre spécialité in vitro. Hein. D'où le débat, qu'est-ce que c'est qu'un embryon? Est-ce que c'est une personne humaine? Est-ce qu'on peut détruire des embryons, etc. Ce qui a alimenté beaucoup les discussions, auxquelles vous étiez, bien que pas dans la reproduction, mais directement concerné pour l'utilisation des cellules souches. Dans d'ailleurs le domaine cardiaque, comme le domaine cutané, comme le domaine neurologique et tout ça, hein, bien entendu. La possibilité aussi de transformer des cellules adultes en injectant un certain nombre de gènes, 4-3 gènes, qui de cette cellule adulte en font une cellule embryonnaire. Donc on obtient bien sûr une cellule embryonnaire, mais pas à partir d'un embryon, à partir d'une cellule adulte. Et donc éthiquement, ça a soulagé beaucoup de personnes d'envisager cette solution. Alors et pendant tout un débat, on opposait l'un à l'autre pour des raisons idéologiques. Vous, Philippe Ménaché, sur le plan médical, est-ce que ça s'oppose, ça se complète?
Non, alors clairement, ça se complète. Puisque celui qui a découvert ces cellules adultes qu'on peut reprogrammer en cellules pseudo-embryonnaires, puisqu'on sait qu'elles ne sont pas exactement identiques à des cellules souches embryonnaires, mais enfin disons, cellules pseudo-embryonnaires, qui est M. Yamanaka, qui a eu le prix Nobel grâce à cette découverte, dit lui-même que ce serait une folie d'abandonner la recherche sur les cellules souches embryonnaires et que les deux recherches doivent aller de pair et qu'une sorte de fertilisation croisée entre les deux domaines. Ce qu'il y a, c'est que nous, quand on a commencé ces travaux, les fameuses cellules de M. Yamanaka n'existaient pas. Donc la seule façon de produire des cellules cardiaques pour nous, mais aussi des neurones pour les neurologues, des cellules hépatiques ou des cellules rénales, c'était de partir de la cellule pluripotente, et la seule qui était disponible à l'époque, c'était la cellule souche embryonnaire, et puis de la différencier, puisque en fonction des conditions de culture, elle peut effectivement donner tous les types cellulaires. Alors,
ce qui reste quand même assez incroyable, hein, c'est de dire, tiens, j'ai une cellule embryonnaire, je vais donner de la poudre de perlimpinpin A, de la poudre de perlimpinpin 2, et ça va se diriger vers le cerveau, vers les os, ou vers le cardiaque. Et comment on a trouvé ça? Comment vous avez trouvé qu'il pouvait avoir une dérivation vers le cardiaque?
Alors moi, j'ai rien trouvé du tout, hein. C'est pas moi qui ai mis au point naturellement les techniques de
général.
Les techniques de différenciation. Pour répondre simplement, en imitant, en mimant in vitro, dans les conditions du laboratoire, ce qui se produit réellement au cours de la vie embryonnaire. C'est-à-dire que au cours de la vie embryonnaire, vous partez d'une centaine de cellules pluripotentes, et puis telle et telle molécule vont intervenir pour diriger la cellule vers un destin cardiaque, ou bien vers un destin neurologique. Et nous, on a simplement copié, c'est-à-dire qu'on a utilisé les molécules en question, mais in vitro, au laboratoire, et non plus in vivo, pour reproduire le phénomène. Donc ce sont des conséquences directes, des connaissances fondamentales, en matière de biologie du développement, ce qui montre bien que les applications thérapeutiques découlent toujours au départ de recherches fondamentales et que ces recherches fondamentales doivent être privilégiées, même si elles n'ont pas une application immédiate.
Justement, parlons-en, avant de revenir sur votre thématique propre. Comment vous vous situez, vous qui êtes un chercheur de longue date, j'ai envie de dire, parce que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce sujet, mais vous savez, quand j'ai vu le prix Nobel sur l'immunothérapie dont on a parlé dans le cancer au cours de cette série d'émissions, pour l'un c'est 22 ans, pour l'autre c'est 24 ans de travail, hein, je dirais. Donc c'est des années de persévérance de sang. Donc vous êtes, je dirais, amené à utiliser donc ces cellules embryonnaires vrai ou pseudo-embryonnaire à partir de cellules adultes, et vous dites que c'est une possibilité de combinaison, c'est-à-dire que, en fin de compte, l'un sert de modèle ou le résultat clinique, c'est-à-dire le sécrétome ou le jus dans lequel baignent ces cellules que vous voulez utiliser pour régénérer les cellules cardiaques, pourrait venir indifféremment, aurait le même effet si elles viennent des cellules embryonnaires vraies ou des cellules néo-embryonnaires.
Oui, ça c'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, actuellement, nous travaillons sur le fameux jus de cellules et on utilise du jus de cellules cardiaques que nous dérivons maintenant de ces fameuses cellules de Monsieur Yamanaka. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pas eu trop de problème à greffer des cellules souches embryonnaires qui avaient été différenciées à partir du moment où on s'était assuré sur le plan sécuritaire que ces cellules remplissaient toutes les qualifications requises. Le problème de transplanter chez le patient des cellules venant de ces cellules induites à la pluripotence, c'est que vous l'avez rappelé tout à l'heure, en amont, il y a quand même une transformation du génome. C'est-à-dire qu'on prend une cellule adulte puis on la bricole de manière à en refaire une cellule embryonnaire. C'est pas une cellule naturellement embryonnaire. Et cette espèce de petit bricolage génétique, on a quand même quelques interrogations sur les conséquences que ça peut avoir à terme, une fois que ces cellules auront été greffées, même si on s'entoure de toutes les précautions. Je vous rappelle quand même qu'au Japon, il y a eu une étude qui a commencé, utilisant ces cellules dérivées donc de cellules adultes, qui avait été reprogrammé en cellules de l'œil pour traiter de la dégénérescence maculaire et qu'ils ont arrêté au deuxième patient. Parce qu'au deuxième patient, ils se sont rendus compte que le phénomène de reprogrammation avait induit quand même des petites anomalies génétiques dont on n'était pas sûr qu'elles seraient totalement sans danger. Bon. En revanche, si l'idée c'est de prendre le jus et de plus greffer la cellule elle-même, alors à ce moment-là, effectivement, ces cellules-là sont largement utilisables et tout autant dans des conditions de sécurité tout aussi acceptables que les cellules souches embryonnaires. Donc il faut faire la différence, hein. Soit vous greffez la cellule, et là moi j'aurais quand même quelques réticences à greffer des cellules comme ça qui ont été reprogrammées génétiquement, compte tenu des anomalies potentielles, soit vous greffez les cellules donc, soit vous utilisez leur jus, et à ce moment-là, les cellules, elles restent à l'extérieur du corps, hein. Elles ne servent qu'à produire le jus, et à ce moment-là, c'est d'ailleurs ce qu'on fait, on peut utiliser les cellules induites à la pluripotence, et pas forcément des cellules souches embryonnaires.
Et où est-ce que vous en êtes dans vos essais actuellement ?
On teste et on travaille justement sur la purification de ce jus, sur sa caractérisation, et sur la manière de l'administrer de la manière la moins agressive possible pour pouvoir éventuellement répéter l'administration du jus.
Par contre, sur les cellules, vous avez déjà un recul et vous avez déduit que c'était pas permanent. Les cellules greffées n'étaient pas, se greffaient pas indéfiniment. Et ce qui vous a fait un peu changer de développement, où vous conservez quand même l'administration de cellules. Et j'allais vous poser la question, donc par quelle voie les cellules, jusqu'où, dans l'organe cible, et par quelle voie en ce qui concerne le jus cellulaire?
Alors, en fait, les choses, elles se sont passées d'une façon assez simple et assez naturelle. Pendant que j'ai greffé chez les patients ces cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires, donc pendant l'essai clinique, on continuait de se poser la question du mécanisme d'action. Comment est-ce que ça marche? Et il y avait cette hypothèse que peut-être ça marchait par l'intermédiaire du jus. Donc on a comparé, vraiment comparé, en parallèle, la greffe des cellules cardiaques, exactement ce que je faisais chez les patients, versus l'injection du jus des mêmes cellules. Et là, surprise, on a trouvé que le bénéfice était équivalent. Absolument équivalent. On reproduisait les effets de la greffe de cellules par la seule administration du jus.
Administration par quelle voie? Comment?
Alors, à l'époque, toujours administration intracardiaque directe, puisqu'il fallait une comparaison rigoureuse par rapport à ce que je faisais, c'est-à-dire injecter, enfin, du moins greffer les cellules dans le cœur. Donc, à partir du moment où, comme d'autres, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir fait cette constatation.
Et vous voulez dire par rapport au sécrétome, par
le rapport sécrétome, le jus, en particulier, le jus, il explose en neurologie. Et dans d'autres disciplines. À partir du moment où on est arrivé à l'idée que, finalement, il y avait une forme d'équivalence fonctionnelle entre la greffe des cellules et l'injection du jus, on s'est dit, pour des raisons que je ne vais pas détailler, mais qui sont des raisons pratiques, c'est sans doute plus facile d'utiliser le jus si on veut traiter beaucoup de patients. Donc on est passé au jus. Et à ce moment-là, la question se pose effectivement du mode d'administration. Alors là, je ne peux pas trop anticiper, puisque ce sont des travaux en cours, pas uniquement chez nous d'ailleurs, mais l'idée c'est véritablement de savoir si on ne peut pas obtenir un effet par l'injection périphérique, c'est-à-dire intraveineuse, simple. Parce que les administrations intracardiaques directes ont quand même des indications limitées et comme limite majeure de ne pas pouvoir être répétées facilement.
Philippe Ménaché, est-ce qu'il y a d'autres équipes dans le monde avec qui vous collaborez ce thème? Est-ce que c'est un courant important de la thérapeutique à venir?
C'est un courant, qui est relativement important. Pas uniquement, je le répète, en cardiologie, et c'est ça qui est intéressant.
Oui, en neuro, c'est quoi le...
Ah ben, en neuro, c'est le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Le traitement des accidents vasculaires cérébraux, soit par des cellules, soit par le jus de cellules. Alors, ce ne sont pas les mêmes cellules, mais simplement, eux, sont partis comme nous de cellules pluripotentes, et au lieu d'en faire des cellules cardiaques, ils en ont fait des neurones. Alors, soit ils greffent les neurones, soit ils injectent le jus de neurones. Mais c'est intéressant de voir que des disciplines, finalement, qui sont assez éloignées l'une de l'autre, avec des équipes qui ne se connaissent pas nécessairement, sont finalement arrivées, sur le plan conceptuel, à des conclusions identiques.
Et donc, vous dites que dans le monde, est-ce que vous avez des gens qui critiquent cette approche?
Oh oui, bon, on est toujours critiqués. D'ailleurs,
oui, mais sur quelle base?
Les premiers critiques, c'est nous-mêmes. On est toujours en train de se demander si ce qu'on a trouvé correspond à la réalité, s'il n'y a pas des artefacts, s'il n'y a pas des biais, etc. Je ne peux pas dire qu'il y ait des critiques... agressive.
Il y a des gens qui pensent que oh là là, c'est une voie de recherche.
Oui, il y a des gens qui pensent que c'est une voie de recherche qui n'a pas jusqu'à présent donné les résultats escomptés. Mais je pense que alors là, c'est faire fi de ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans le temps long. Certains sont effectivement sceptiques, peut-être d'ailleurs ont-ils raison, mais nous, notre travail, c'est d'explorer des
d'aller
voies
jusqu'au bout,
et puis de voir ce qui se passe, et ensuite de rapporter de façon honnête et objective, oui, ça marche, ou bien, bah non, ça marche pas aussi bien qu'on le pensait.
Oui, on disait tout à l'heure, hors micro, que dans cette série d'émissions, donc les chercheurs, c'est 24 ans, 22 ans en immunothérapie du cancer. Moi, je pense à la fécondation in vitro, c'est 15 ans d'affilée. Enfin, voilà, ça
la greffe de moelle, c'est 50 ans.
Voilà, donc ça
50
se,
ans. Ça se... Entre la première souris dont on a montré que si on lui injectait des cellules sanguines, elle pouvait récupérer et l'utilisation courante des greffes de moelle pour traiter des maladies du sang.
Mais dans ces freins, ou dans cette lenteur, ou dans ce temps nécessaire, en dehors des bonnes idées et du temps de la mise en œuvre de l'expérimentation, est-ce que vous pensez qu'en France, par rapport à d'autres pays, je pense aux États-Unis, nous avons un système de précaution trop lourd qui font un peu le millefeuille, au sens où le millefeuille administratif qui bloque un peu par la succession des assemblées qu'il faut qu'on ait pour un projet de recherche, et qu'on a dit qu'en moyenne il fallait de 3 à 5 ans une fois qu'on a l'idée lumineuse einsteinienne et les premières réalisations, c'est-à-dire on arrive à peu près au moment où on voit que nos petits camarades à l'étranger commencent leur publication. Est-ce que vous êtes sur cette vision, ou vous êtes plus critique, ou vous êtes plus ouvert sur la situation en France?
Non, je pense, si vous voulez, qu'il y a à l'évidence une marge de progrès, mais qu'elle n'est pas à l'échelle française maintenant, elle est à l'échelle européenne, parce que finalement...
Donc on va en discuter en mai.
Les agences...
le groupe des gilets jaunes scientifiques.
les agences nationales ne font que retranscrire souvent en droit national des règlements européens. Et il est clair que de ce point de vue-là, on a une réglementation extrêmement contraignante et en tout cas sans doute un peu moins fluide que celle qui existe depuis peu d'ailleurs, mais qui existe aux États-Unis et qui permet d'accélérer pour tout ce qui est thérapie innovante le début des essais cliniques, à condition naturellement qu'un certain nombre de précautions sécuritaires.
Oui, ce qui se passe, c'est que là, vous opposez Europe, États-Unis, enfin on oppose, on voit qu'il y a des différences de pratiques. Alors, il y a déjà quelque chose qui est intéressant en France, c'est ce qu'on a discuté dans une de nos émissions, c'est l'ATU, c'est-à-dire la possibilité de mise sur le marché de médicaments qui ont une nécessité absolue, vitale, rapide, sans passer par tout le cheminement. Et vous dites qu'aux États-Unis, il y a une voie d'accélération, ouais, quoi, possible.
Il y a une voie d'accélération
qu'il n'y a pas tout à fait en France.
Ouais, il y a une voie d'accélération qui existe, qui s'appelle les RMAT, et qui permet donc à l'agence américaine, à la FDA, de donner en 60 jours.
J'aurais. D'ailleurs, c'était le titre de votre chanson, I Have a Dream.
Ouais, ben
voilà.
Un avis.
RMAT, voilà. Avis aux États-Unis,
en 60
30 à 60 jours.
Mais il faut reconnaître que quelques progrès ont quand même été faits, notamment par l'agence française, par la NSM, pour tout de même ne pas être trop freinatrice par rapport à ces innovations thérapeutiques. Mais il y a quand même encore une marge de progrès.
Mais je pense qu'il y a une marge de progrès dans chaque agence, parce qu'en fait, vous vous adressez à plusieurs agences, y compris l'éthique à un moment donné qui arrive, mais c'est pas fait en même temps. Alors vous passez une étape, vous devez faire une deuxième, une troisième, passer par les comités de protection des personnes, enfin, etc. C'est pas regroupé, et donc du coup, ça ralentit.
Ça ralentit, mais d'une certaine façon, ça ne peut pas non plus être regroupé, parce que les comités de protection des personnes...
Non, mais se faire en même temps, pas regroupé. Mais je veux dire que le débat se fait en même temps pour pas se faire stopper alors qu'on a passé les trois étapes, mais que la quatrième était modulable. Il faut donc rechanger et tout repasser.
Absolument.
Voilà, c'est ça la triste réalité. Et je tenais à le dire avec le soutien de Philippe Ménaché. Comment donc... Là, si vous faisiez un dream, puisque c'est le titre de la chanson que vous avez choisi, dans les 10 ans qui viennent, comment l'hôpital a changé et les gens se viennent traiter, peut-être pas à pied s'ils ont insuffisant cardiaque, mais ils arrivent en chaise, mais ils repartent comment? Enfin, je veux dire par là, une façon de dire, vous voyez un développement vraiment à diffuser, qui va se diffuser pour cette pathologie du vieillissement, il faut bien le dire, quand même, très fréquente.
Oui, alors pour ce qui est de ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, je pense que les deux grandes voies, qui ne sont pas, une fois de plus, d'ailleurs antagonistes, hein, qui peuvent se compléter, c'est d'une part la voie biologique, c'est-à-dire ce dont nous venons de parler, les biothérapies, thérapie cellulaire, mais pourquoi pas thérapie génique, même si l'expérience est plus limitée en matière de thérapie génique et de cœur. Et puis il y a la voie mécanique, qu'il ne faut pas non plus... sous-estimé. La voie mécanique, ce sont les petites pompes d'assistance cardiaque qui ont fait des progrès absolument considérables il y a quelques années quand on implantait ces pompes d'assistance. On les implantait d'abord en attente de transplantation et pas en traitement définitif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a un certain nombre de patients qui, depuis plusieurs années, ont ces petites pompes implantées, ne seront pas transplantées et, à défaut d'avoir une vie normale, sont quand même en vie avec une qualité de vie qui n'est parfois pas si mauvaise que ça. Donc, à l'époque, c'était quelque chose d'un petit peu aléatoires, compliquées, etc. Ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a des progrès considérables qui ont été faits en matière technologique, et notamment dans tout ce qui concerne la miniaturisation des dispositifs. Donc je pense que on va continuer à assister au cours des années qui viennent à l'explosion de ces dispositifs d'assistance mécanique qui, je le répète, ne sont pas antagonistes avec les approches biologiques. Et vraisemblablement, on va pouvoir de cette façon améliorer de manière importante le pronostic d'un certain nombre de ces patients insuffisants cardiaques.
Quid de l'infarctus, qui est un autre quand même accident cardiaque majeur?
Alors d'abord, l'infarctus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a moins, puisque les mesures de prévention, et en particulier l'éradication du tabac, on ne dira jamais assez à quel point il faut arrêter de fumer, même si ça rapporte de l'argent à l'État. Donc la prise en compte d'un certain nombre de facteurs de risque, le meilleur contrôle de la pression artérielle, l'exercice physique, etc., font qu'il y a moins d'infarctus. Ça, c'est une première chose. Et puis deuxièmement, l'infarctus est sans doute la pathologie où les progrès thérapeutiques ont été le plus spectaculaires au cours des dernières années, puisque maintenant, l'artère coupable est débouchée très vite par un cathéter, avec un petit ressort éventuellement pour maintenir l'artère ouverte, et la mortalité de l'infarctus a diminué de manière absolument extraordinaire au cours des 15 dernières années.
Mais s'il y a une atteinte, justement, un territoire qui n'a pas été bien irrigué pendant un temps, est-ce que votre approche qui viserait donc à... Parce qu'elles sont... il y a quelques cellules mortes, mais certaines sont malades. Si on intervient assez vite, je dirais dans... Est-ce que la combinaison de la libération de la voie vasculaire avec les cellules ou le jus cellulaire, qui est votre sujet favori, permettrait une meilleure récupération de l'ensemble des cellules infarctées?
C'est une très bonne question et c'est tout à fait possible. C'est pas véritablement notre thématique, c'est celle vraiment des cardiologues interventionnels, pas des chirurgiens cardiaques. Nous, les chirurgiens, on voit pas les infarctus au stade aigu. Mais ceux qui travaillent sur cette thématique de l'infarctus explorent actuellement cette voie. Absolument. Il est possible, en particulier si on utilisait un jus qui est un liquide facile à injecter, d'une certaine façon, il est possible que l'utilisation donc de ce sécrétome cellulaire permettent d'améliorer encore les résultats des recanalisations des artères occlusives au stade
vite,
de l'infarctus.
Quand on va vite, ce qui n'est pas toujours le cas, mais enfin, quand même, il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites dans la prise en charge de l'infarctus et qu'on monte tout de suite le cathéter de reperméabilisation et qu'on va laisser un petit ressort qui va laisser l'artère ouverte. C'est vrai que si on injectait, ce jus, ce sécrétome, on aurait peut-être une...
Absolument, mais il y a pas mal d'études qui sont en train d'explorer
parfait,
cette possibilité.
Je sens qu'on va bientôt se revoir et que ça va être toujours une avancée avec vous, Philippe Ménaché, que j'apprécie toujours autant de votre calme, votre éthique et votre réalisation. Voilà, cette émission donc a été en partenariat avec le quotidien du médecin. Grâce à Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, Rafik Zénine et Bernard Laniel, vous savez tout sur la transplantation cardiaque virtuelle grâce à Philippe Ménaché, représentant bien sûr toutes ses équipes. Vous pouvez réécouter cette semaine sur le site internet franceculture.fr autant que vous le souhaitez. N'oubliez pas que nous inscrivons dans une grande série « Les grands espoirs de la médecine ». Tout ça est absolument passionnant. Et demain, d'ailleurs, modifier un gène et guérir avec Anne Galli et Nicolas Boissel vous permettront d'avoir encore une grande joie de voir que la médecine française et internationale progresse.